France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. C'est une maladie du tissu adipeux, l'obésité qui touche 1 milliard de personnes dans le monde. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 1 personne sur 8, selon une récente étude publiée par The Lancet, majoritairement des femmes, un chiffre qui a doublé entre 1990 et 2022. Il s'agit d'une véritable épidémie mondiale et qui touche de plus en plus les enfants et les adolescents. Nous vous donnerons une définition précise et médicale de l'obésité, qui n'a rien à voir avec l'indice de masse corporelle. Est-il possible de guérir ou bien de soigner cette maladie chronique multifactorielle qui entraîne des inconvénients plus ou moins graves pour la santé en réduisant l'espérance de vie? Est-il raisonnable de s'engager dans un régime pour perdre du poids en cas de surpoids ou d'obésité? Le surpoids est-il aussi une maladie chronique? Nous verrons ce qu'il faut penser des médicaments contre l'obésité sur le marché ou en attente d'être commercialisés. Nos invités attendent vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique médicale?
Aujourd'hui, qu'est-ce que la maladie en fin de compte?
Vaste question Adrien. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali.
Ambassadeur très investi de la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM, chaque mois, vous visitez un labo de recherche.
Et aujourd'hui, je vais vous parler d'endométriose.
À tout à l'heure, Thierry. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
L'obésité, une épidémie qui vient de dépasser un seuil alarmant. Plus d'1 milliard de personnes sont désormais obèses dans le monde, 1 sur 8. C'est ce que vient de révéler une étude internationale. D'après elle, en seulement 32 ans, le taux d'obésité a doublé chez les adultes et quadruplé chez les enfants et les adolescents. La maladie touche principalement les femmes. En 2022, 504 millions d'entre elles étaient obèses, contre 374 millions d'hommes.
Je vais vous peser.
Mais c'est chez eux que la tendance progresse le plus vite. Ils sont 3 fois plus qu'en 1990. Une hausse vertigineuse qui s'explique notamment par un changement dans les habitudes de consommation. Les produits frais et locaux se voient petit à petit remplacés par de la nourriture transformée et venue de l'étranger. Toutefois, la France fait figure de bon élève. L'obésité y a légèrement reculé ces 30 dernières années.
Extrait d'un reportage diffusé sur France Info le 4 mars dernier. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris et vous animez la chaîne YouTube de l'université Paris Cité, PUMS pour une meilleure santé. Bonjour docteur Marie-Christine Boutron-Rioux.
Bonjour Ali.
Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste en médecine interne et hépato-gastro-entérologie. Alors professeur Boris Ancel, qu'est-ce que l'obésité? C'est une maladie du tissu adipeux, c'est un excès de masse grasse et une modification de ce tissu adipeux qui entraîne des inconvénients pour la santé. On pourrait définir l'obésité de cette manière-là?
L'obésité, c'est une maladie chronique, première chose qu'il faut dire. Et la deuxième chose qu'il faut dire, vous avez raison, la définition, c'est pas l'indice de masse corporelle. La définition, et c'est un excès ou une masse grasse mal localisée qui nuit à la santé. Donc on ne peut pas dire qu'une personne est malade d'obésité en calculant son IMC, même si l'IMC a un intérêt, on va le voir, mais pour dire qu'une personne est malade d'obésité, il faut aller plus loin, il faut savoir si cette personne a effectivement de la graisse en excès ou anormale, avec des conséquences pour la santé, qu'elle soit physique, psychique, social.
Je rappelle que l'indice de masse corporelle, c'est un moyen, c'est un indicateur du surpoids ou de l'obésité. Mais par exemple, on peut avoir un IMC, un indice de masse corporelle de 32, sans être obèse. Et ça, c'est compliqué à comprendre.
Si on est rigoureux, ce que vous dites est parfaitement juste. C'est-à-dire que l'IMC, je pense qu'il faut davantage dire aujourd'hui que c'est un calcul pour le dépistage, c'est-à-dire savoir, ah, cette personne est peut-être malade d'obésité. Ce calcul, c'est le poids sur le carré de la taille qui permet de catégoriser les personnes en situation IMC entre guillemets faible, normale entre guillemets, surpoids, obésité, grade 1, 2, 3. Donc pour le médecin, ça permet, on va dire, d'avoir une première approche. Mais même si on voit un petit peu partout, l'obésité est définie par un IMC qui est supérieur à 30, c'est vrai dans le langage courant, mais sur le plan médical, il faut aller plus loin.
Pour parler d'obésité en tant que maladie chronique, il faut qu'il y ait des comorbidités, c'est ça ?
Absolument. Donc comme on l'a dit, c'est une maladie chronique. Maladie, ça veut dire un retentissement sur la santé, quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'examens sont nécessaires, cliniquement, avec mesure de la tension artérielle, avec quelques prises de sang, avec une évaluation en interrogeant son patient en détail. Et c'est à l'issue de cette évaluation qu'on peut réellement dire dans quelle situation se trouve la personne.
Parmi les complications et les comorbidités, on peut retrouver l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, l'athérosclérose, le diabète de type 2, une maladie rénale chronique, un cancer du foie, du sein ou de l'utérus, une maladie respiratoire comme l'apnée du sommeil, des maladies articulaires ou encore des épisodes dépressifs. Si par exemple j'ai un index de masse corporelle de 32, mais que je n'ai aucune de ces conséquences, de ces retentissements sur la santé, de ces comorbidités, je ne suis pas obèse du point de vue de la maladie chronique.
Sur le plan, précisément, on n'est pas malade. Et donc le message qu'il y a derrière ce que vous dites, Ali, c'est qu'il ne faut pas dire à une personne « Ah, tu as un indice de masse corporelle à 31 ou 32, et ça y est, il faut te mettre au régime pour retrouver un indice de masse corporelle normal, parce que y a un risque à avoir ce discours-là. »
Hélas, Boris Ancel, il y a des publicités actuellement à la télévision d'une marque qui vend des plats préparés dans la visée de perdre du poids, qui insiste lourdement sur le fait si vous êtes en...
Vous n'aimez pas ces plats ?
Non, mais si vous avez un IMC de plus de 25, vous êtes peut-être en surpoids, en obésité. Pour vous, ce sont des discours qui sont délétères.
C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'on parle de maladie. Depuis le début de cette émission, on a dû prononcer le mot maladie chronique une dizaine de fois et que c'est présenté comme « Ah bah tiens, vous vous trouvez un peu gros, vous avez une IMC élevée, ouh là 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 là, c'est très très dangereux, achetez mon régime !» Et ça c'est très grave, c'est délétère et c'est dangereux pour la santé.
Docteur Marie-Christine Boutron-Ruault.
Alors, je compléterai en disant qu'il y a deux formes de morphotype. Il y a le morphotype pomme et le morphotype poire. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un indice de masse corporelle autour de 30 et avoir plutôt des hanches larges, donc la forme un peu calipige, et à ce moment-là, avoir quelque chose qui a très peu de conséquences sur la santé, voire pas du tout. Alors que, et même avec un indice de masse corporelle plus faible, dès qu'il y a une obésité abdominale, c'est-à-dire cette forme pomme, qu'on appelle aussi l'obésité androïde, eh bien là, on a beaucoup plus de risques d'avoir des conséquences pour la santé, une résistance à l'insuline et puis ce qu'on va appeler le syndrome métabolique.
Pourquoi cette graisse abdominale est-elle aussi délétère pour notre santé, Marie-Christine Boutron-Ruault ?
Alors, elle n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres formes de graisse. En réalité, c'est une graisse de stockage un peu atypique ou excessive qui va générer un certain nombre de médiateurs chimiques, de produits chimiques qui vont entraîner une inflammation chronique qu'on va appeler une inflammation chronique de bas grade et qui va petit à petit abîmer la santé.
Professeur Boris Ancel, pourquoi parle-t-on de l'obésité comme d'une maladie chronique ? Cela veut dire que l'obésité devient irréversible quand elle s'installe ?
Maladie chronique, effectivement, ça s'oppose à maladie aiguë. Si vous avez une appendicite, vous avez une infection urinaire, on vous traite, vous êtes guéri, on n'en parle plus. L'obésité, ça va évoluer tout au long de la vie. Et on peut dire aujourd'hui que malheureusement, on ne guérit pas d'obésité. On ne sait pas guérir l'obésité, au même titre qu'on ne sait pas guérir le diabète, on ne sait pas guérir l'asthme. On peut être en rémission, on peut soigner la maladie chronique. On peut aider les personnes à vivre normalement, à limiter leurs risques. Et c'est très important cette distinction, parce que quand on nous présente les régimes auxquels vous faites allusion, par exemple, alors on vous promet d'en finir avec l'excès de poids, d'en finir avec l'obésité, et ça c'est un non-sens. Donc quand on soigne une personne qui est atteinte d'obésité, qui est en situation d'obésité, la première chose à lui dire c'est « ce n'est pas votre faute, vous avez une maladie ». Deuxièmement, c'est « on ne va pas cibler à tout prix la perte de poids ». Ça c'est un message très important. Soigner une personne en situation d'obésité, ça ne veut pas dire tout prix lui faire perdre du poids. Ça veut dire prendre en charge.
C'est soigner ses comorbidités.
Soigner une personne. On soigne une personne et effectivement prendre en charge les comorbidités. Oui, il y aura probablement une perte de poids et en fonction des cas, elle sera plus ou moins importante. Mais on ne dit pas à une personne, je vous prends en charge pour vous faire perdre 10, 15, 20, 30 kilos.
Thierry Lhermitte.
Ouais, une question que je me pose depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que la graisse abdominale est différente de la graisse sur d'autres parties du corps? Est-ce que c'est la nature des cellules graisseuses ou est-ce que c'est juste le contact avec les organes?
Non, c'est la nature des cellules graisseuses. D'accord. Elles, ce ne sont pas les mêmes. D'accord. Il y a la graisse brune, qui, elle, est plutôt... Peut-être, Boris, tu veux...
Ce qu'on peut dire de cette graisse, moi j'aime bien faire une comparaison entre les parkings de durée rapide ou de durée lente. C'est-à-dire que au niveau des fesses et des cuisses, on a des parkings de longue durée. C'est-à-dire que la graisse, elle est stockée, elle est là, et finalement, elle fait pas grand-chose, entre guillemets. Alors que la graisse qui est dans le ventre, c'est comme des parkings de stockage rapide. On stocke de la graisse qui est en permanence relarguée. Et donc, c'est une graisse vivante. Elle va fabriquer des hormones, elle va libérer des acides gras dans la circulation en permanence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut la perdre assez vite et la reprendre assez vite.
Et d'ailleurs, l'obésité, on l'a dit, c'est une maladie du tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est le gras. Des tissus qui contiennent des cellules qui stockent des réserves énergétiques sous la forme de graisse, on appelle ça les adipocytes, des cellules qui grossissent à mesure qu'elles accumulent des lipides, et quand ces adipocytes atteignent leur volume maximal, elles peuvent recruter de nouvelles cellules vides prêtes à se charger en gras. Et oui, c'est pour ça que c'est une maladie chronique.
C'est une maladie chronique, certains vont parler de maladie inflammatoire, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du tissu adipeux, et quelque chose qui ne va pas faire plaisir, mais au contraire, moi je crois que c'est important de savoir, c'est que quand on perd du poids, alors on va vider les cellules de graisse, mais elles vont rester en place. Et quand on reprend du poids, on va les re-remplir et on va en recruter de nouvelles. Et le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Et donc, quand vous videz vos cellules de graisse, elles vont mettre en place une réaction psychologique, une réaction hormonale, biologique, pour se re-remplir. Voilà pourquoi c'est si difficile de maintenir une perte de poids. Il y a des moyens pour y arriver, il y a des choses qu'on peut faire. J'ai pas dit qu'on ne peut rien faire, on est là pour dire qu'on peut soigner les gens. Mais voilà pourquoi les régimes restrictifs où on se dit on va combattre l'obésité sont, par définition, voués à l'échec.
Docteur Marie-Christine Boutron-Ruau.
Oui, dans cette histoire de cellules, il y a ce qu'on va appeler la phase hyperplasique, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'elles grossissent, elles grossissent. Et quand elles ont atteint une taille maximum, eh bien, elles vont faire ce qu'on appelle la phase hyperplasique, c'est-à-dire qu'elles vont se multiplier. Et donc, une fois qu'on a effectivement une multiplication de cellules, c'est exactement ce qui vient d'être dit, on peut les priver de leur graisse, mais on va pas réduire le nombre. Donc...
Et même la liposuction, je dis tout de suite, parce que ça va être une question que les gens se posent, la liposuction, ça ne marche pas. Hein. On enlève de la graisse un petit peu sous la peau, mais d'abord on n'enlève pas la graisse qui est dans le ventre, qui est la plus toxique, et puis elles vont se remultiplier quand même.
Il faudrait plusieurs émissions pour évoquer les causes complexes de l'obésité. Ce sont des causes à la fois génétiques, alimentaires, des causes hormonales, hein, environnementales, épigénétiques.
Alors, moi j'aimerais insister sur le fait que les causes alimentaires, c'est très secondaire, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est pourquoi est-ce qu'on mange? Bien évidemment que si on mangeait pas, on ne prendrait pas de poids. Mais c'est le pourquoi qui nous intéresse. Parce que de dire aux gens, et ça malheureusement encore trop souvent, on culpabilise les gens en leur disant c'est de votre faute, vous mangez trop, etc., vous mangez trop vite, voilà. Mais pourquoi Et on sait maintenant, et il y a de plus en plus de travaux dans les travaux récents, l'importance du stress post-traumatique, du syndrome de stress post-traumatique, et pour l'enfant et l'adolescent, l'importance des événements précoces graves de la petite enfance, qui vont faire modifier finalement la perception par le cerveau archaïque, par notre cerveau finalement non conscient de si on a besoin de manger ou pas. Voilà. Et ça n'est, et alors j'ai un ami qui me dit le cerveau conscient réagit lors de la milliseconde, le cerveau inconscient lors de la nanoseconde. C'est-à-dire que vous pouvez savoir absolument qu'il faut pas manger, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Si votre cerveau archaïque vous dit le contraire, eh bien, il ira beaucoup plus vite. Donc, c'est important et c'est absolument essentiel de prendre en compte cet aspect-là, parce que sinon, on court à l'échec.
Il est 10h22, l'heure de retrouver la chronique médicale du docteur Adrien Chaboch.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Adrien Chaboch.
Ali, de votre forme resplendissante, je suis sûr que votre santé ne va pas si bien. Ne me cacheriez-vous pas un ou deux symptômes derrière cette jolie moustache?
J'ai affaire au docteur Knock ou quoi ce matin? Non, ça va, je me sens très bien. Je toussote un peu peut-être, un petit peu.
Ah bah voilà un malade qui s'ignore. Car voyez-vous, Ali, selon l'Académie française, la maladie, qui veut dire en latin « en mauvais état », est définie comme une altération plus ou moins importante de la santé, conséquence d'une atteinte, des fonctions ou des organes.
Mais moi ça va, je suis en forme, la toux c'est juste un petit reste d'un rhume d'il y a quelques semaines.
Eh oui, bien sûr vous avez raison Ali, chez un adulte normal. Une rhinopharyngite est une affection virale bénigne que nous allons rencontrer environ 200 fois dans notre vie. Enfin, sauf certains genres humains de sexe masculin comme moi, où un petit nez qui coule peut prendre une tournure dramatique, me dit ma femme. Alors, c'est quoi une maladie? Est-ce que c'est quand on a des symptômes? Bah, pas tout à fait. Parce que, par exemple, le diabète, qui touche 4 millions en France, et l'hypertension artérielle, 17 millions, sont des maladies qui vont entraîner des conséquences très graves, mais leur début se fait dans un silence quasiment total. Stade où l'on sait pourtant que prescrire des médicaments ou agir en prévention empêchera d'avoir des symptômes. Alors, est-ce qu'on est malade parce qu'on prend des médicaments? Pour Alzheimer, il n'y a à ce jour quasiment aucun médicament directement efficace sur la maladie, tandis que nous faisons tout notre possible pour accompagner ces personnes qui souffrent parfois au point même de ne plus pouvoir s'en rendre compte. En fait, définir la maladie interroge sur ce qui est normal et pathologique. Et ces notions varient selon les cultures, les religions, les morales et en fonction des connaissances d'un moment T. Humilité indispensable à nous, médecins. Toute maladie, même mortelle, n'aura pas le même sens. Parfois même, pas la même importance. Celle qui me choque, quand je sais par exemple que chaque année, 600 000 personnes meurent du paludisme et plus d'un million et demi de tuberculose, deux maladies pour lesquelles nous avons tout pour donner des médicaments à tous. Plus légèrement, enfin sans mauvais jeu de mots, Teddy Riner pèse 135 kilos, son IMC de 31 correspondrait à un stade d'obésité. Et je vais pas aller lui dire, parce que c'est
moi
que
non
du
plus.
Muscle.
Je vous laisse la responsabilité de dire que Teddy Riner est en situation d'obésité.
Hein. On sera deux. Là encore, nos échelles de mesure dites du normal montrent leurs limites. Et la santé mentale, c'est encore plus compliqué. Il y a bien des critères internationaux pour définir la maladie bipolaire ou la dépression qui touche un adulte sur deux dans une vie. Mais moi, ai-je le droit d'être cyclothymique, par exemple, et d'aller bien? Si je ne rentre pas dans les bonnes cases, est-ce qu'on va me prendre au sérieux et m'aider? La santé n'est pas seulement la vie dans le silence des organes, comme le disait le grand chirurgien René Leriche. S'il y a bien un universel chez l'être humain, c'est que la maladie d'un individu renvoie toujours à l'indispensable présence d'un autre auprès de lui, qui doit toujours l'écouter, le soulager, parfois le guérir. La maladie la plus constante, la plus mortelle, la plus répandue. Alice, et l'indifférence.
La chronique du docteur Adrien Chaboch a podcasté sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, que penser des médicaments contre l'obésité qui attendent d'être mis sur le marché? Éléments de réponse juste après avoir écouté Johnny Nash, I Can See Clearly Now, une chanson sortie en 1972, 10h26 sur France Inter.
I can't
can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright sunshiny day.
Johnny Nash interprété I Can See Clear Now.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Et ce, oui, je sais, Claire Destacan, notre réalisatrice, cet accent était très bizarre, je le reconnais. Et ce matin, peut-on guérir de l'obésité et comment soigner cette maladie chronique en compagnie du professeur Boris Ancel et du docteur Marie-Christine Boutron-Ruau.
J'ai perdu presque 100 kilos. J'étais à 245. C'était une renaissance, totalement. Je n'avais plus de vie, j'étais alitée, donc je me faisais faire ma toilette, je me faisais faire mes courses, mon ménage, on m'habillait, enfin j'étais un légume en fait. Et c'est vrai que le fait de faire cette opération-là et de perdre du poids, ben, m'ont clairement sauvé la vie en fait, tout simplement. On renaît, c'est pour ça qu'elle appelle ça une renaissance, parce que on réapprend les choses basiques de la vie, c'est-à-dire faire sa toilette, faire son ménage, aller aux toilettes, tout simplement. C'est quelque chose de très simple et basique, mais les gens ne se rendent pas compte que quand on est obèse, la difficulté des choses simples de la vie, en fait.
Extrait du grand reportage diffusé sur France Culture le 6 octobre 2023. Professeur Boris Ancel, Marie-Christine, docteur Marie-Christine Boutron-Ruau, j'aimerais qu'on s'arrête sur une idée reçue que vous aimeriez pulvériser ce matin. Soigner l'obésité, ce n'est pas une question de volonté du malade. La volonté n'a rien à voir là-dedans, docteur Boutron-Ruau.
Oui. Premièrement, culpabiliser les patients, c'est les maintenir dans un état infantile de dépendance, alors que tout l'objectif, ça va être de les faire passer d'un mode survie à un mode vie. C'est-à-dire, ils sont adultes, ils prennent leur... nous, comme médecins, moi je leur dis toujours, on est des coachs et on n'est pas des gourous. Donc, c'est leur santé, c'est leur vie, leur façon d'être. On essaye de comprendre ce qui se passe et de les guider pour aller dans le bon sens. Mais dire que c'est de leur faute, c'est stupide.
Boris Ancel. Oui, Ali, tous mes patients ont de la volonté. Hein. Ils arrivent tous avec cette idée-là, j'ai la volonté de faire attention. La volonté est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Mais encore une fois, la maladie qu'il y a derrière, c'est comme si vous disiez, j'ai la volonté d'être premier au marathon. Ben oui, c'est vrai, vous pouvez démarrer très 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 fort en vous disant une fois que j'aurai démarré fort, j'aurai tellement de motivation et de volonté que je vais aller jusqu'au bout. Mais non, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui feront que vous ne serez pas premier au marathon à Lille, sauf si vous vous entraînez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et tiens, une question de d'Agnès. Je vous écoute en mangeant du beurre de cacahuète à la cuillère et je ne vais pas prendre un gramme, alors que ma sœur, il suffit qu'elle regarde une tablette de chocolat, elle va prendre 2 kilos, ce n'est pas juste. Pourquoi, à calories égales, certains vont grossir, prendre du poids et d'autres pas, et notamment dans la même fratrie ou dans la même famille?
Alors, il y a certainement, et ça on l'a découvert avec les conséquences de la grande famine pendant la Seconde Guerre mondiale en Hollande, que des enfants qui étaient in utero pendant cette grande famine ont développé des modifications de leurs gènes, qu'on va appeler des modifications épigénétiques, c'est-à-dire de l'expression de leurs gènes, qui font qu'ils ont une meilleure rentabilité énergétique. Je dis quelquefois, certains ont la rentabilité d'un poêle à granulés par rapport à une cheminée à foyer ouvert. Donc, forcément, en mangeant relativement pas tant que ça, eh bien, ils vont prendre beaucoup plus de poids. Il y a une injustice. Et puis, il y a des gens, à l'inverse, qui ont même ce qu'on va appeler une malabsorption, c'est-à-dire, et en particulier, une maladie qui est très connue, qui est la maladie cœliaque, eh bien, qui font qu'ils vont manger, mais ils absorberont pas, et quelquefois même insuffisamment, certains nutriments.
Boris Ancel.
Donc oui, il y a des différences évidemment dans la dépense énergétique. On ne dépense pas tous la même quantité d'énergie pour des raisons notamment génétiques. Mais il y a un autre facteur aussi dont on s'est rendu compte ces dernières décennies, c'est le problème de la sous-estimation des apports. On a beaucoup, beaucoup de patients qui nous disent « moi je mange ce que je veux et je grossis pas, effectivement, et l'autre mange très peu et grossit ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'estimation. On n'est pas capable aujourd'hui, et de moins en moins, ça s'était aussi montré, d'évaluer ce qu'on mange. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir cette perception de manger ce qu'ils veulent et beaucoup. En fait, ils vont manger moins qu'une personne qui a le sentiment de moins manger, par exemple, parce que la première personne ne va pas faire de repas. Donc elle va peut-être grignoter, mais finalement elle ne fait pas de repas. Et finalement, à la fin, l'apport calorique est moindre. Donc cette perception, elle est très très altérée de nos jours. Probablement, une des raisons, c'est que la densité énergétique des aliments a augmenté. Je peux vous expliquer rapidement ce que c'est. La densité énergétique, c'est la quantité de calories que vous avez dans un volume, par exemple. Alors, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir mangé un biscuit sec. Oh, j'ai presque rien mangé, j'ai pris ça au petit déjeuner. En fait, c'est une bombe calorique de 200 calories. Alors que vous pouvez avoir mangé un fruit et un yaourt, vous dites « Ah, j'ai mangé ce matin ». Et en fait, en termes de calories, vous êtes à des rations très inférieures. Et le fait que l'alimentation est de plus en plus calorique dans un petit volume, ça nous brouille complètement les yeux. On ne peut plus évaluer ce qu'on mange.
Et donc, pour expliquer l'épidémie d'obésité dans le monde, qui touche, je le rappelle, selon l'OMS, 1 milliard de personnes, il y a donc cette plus grande densité énergétique des aliments, l'augmentation des tailles des portions, et puis une alimentation ultra transformée en excès.
Oui, ça, c'est certains des facteurs qui sont aujourd'hui incriminés. C'est difficile de dire quel est le facteur prédominant. Quand on essaie de les compter, on a 150, 200, on peut parler du microbiote, de l'inflammation, de la pollution, de la densité énergétique des aliments. Mais il faut bien comprendre que ces facteurs environnementaux, ils perturbent complètement nos sensations de faim de satiété, notre perception de ce qu'on est en train de manger, sans parler du fait, évidemment, qu'on fait moins d'activité physique.
Alors, je vais rappeler juste une chose que j'ai souvent dit, petit déjeuner de roi, déjeuner de prince, dîner de pauvre. Parce que on a montré que si la répartition de l'apport énergétique est plutôt en début de journée qu'en fin de journée, on va prendre in fine sur des dizaines, des vingtaines d'années, moins de poids que ceux qui font ce qui est absolument ce qu'on voit à Paris ou dans les grandes villes, pas de petit déjeuner, un déjeuner sur le pouce et un dîner très large, très tard, juste avant de se coucher, où on va plus facilement stocker. Ça, c'est une chose importante. Et donc, moi, j'explique aussi à mes patients que si on fait des pics et des creux des Alpes, c'est-à-dire qu'on fait des pics hyperglycémiques qui vont entraîner des décharges d'insuline et donc du stockage, et qu'on fait ça de façon régulière dans la journée, eh bien, on va plus prendre de poids, même à calories égales sur la journée, que celui qui va manger des petites portions, par exemple, toutes les 3-4 heures, c'est-à-dire prendre un goûter, par exemple, mais un goûter avec une poignée d'amandes, avec des choses qui vont s'absorber lentement. Et là, à ce moment-là, on stockera moins.
Quel est l'arsenal à disposition des médecins pour traiter l'obésité, professeur Boris Ancel? Quels sont les piliers pour aider les patients?
C'est très important ce que vous venez de dire, l'arsenal thérapeutique. En fait, on a une boîte à outils. Ça va depuis la prise en charge comportementale, alimentaire, activité physique, sommeil, stress, jusqu'à la chirurgie
bariatrique. Chirurgie de l'obésité.
Chirurgie de l'obésité, ou bariatrique, ça, barios, ça vient du grec. Vous connaissez ça, Ali?
Bien sûr.
Et au milieu, alors on a les médicaments qui arrivent, et on a aussi des techniques qui sont moins connues, endoscopiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser un fibroscope, c'est par l'intérieur de l'estomac qu'on peut faire un certain nombre de gestes. Donc on a réellement, et c'est parmi ça le message.
Parmi
c'est...
les piliers, il y a donc la diététique.
J'irais la prise en charge comportementale générale.
Il y a l'activité physique et sportive, le sommeil, la gestion du stress. Ça, c'est la base.
Ça, c'est la base et ça, c'est nécessaire pour tout le monde. Ça veut dire que souvent, et ça, c'est un mauvais message qui est véhiculé, c'est « Ah, j'ai tout essayé, je vais me faire opérer ». En fait, non. C'est « Je mets en place ces mesures comportementales, ça aura une efficacité dans 100% des cas ». Maintenant, ça sera peut-être pas suffisamment efficace pour le résultat qu'on veut atteindre. Et c'est là qu'on va aller chercher soit des médicaments, soit des techniques endoscopiques, soit de la chirurgie.
Dans quel cas, justement, est-ce qu'on a recours à la chirurgie bariatrique, cette chirurgie de l'obésité, docteur Marie-Christine Boutron-Ruault? Quelles sont les principales techniques et à quel type de patients ça s'adresse?
Alors, ça va s'adresser essentiellement à des patients qui ont déjà essayé de perdre du poids et d'améliorer leur comorbidité avec un succès mitigé, voire nul. Ça, c'est une première chose. Souvent, ce sont des gens qui sont découragés. Ce sont des gens qui ont des comorbidités qu'ils mettent en danger. Et on a montré que avec, par exemple, une sleeve gastrectomie, eh bien...
C'est quoi, ça?
Ça, alors... Sleeve, c'est le mot anglais, c'est une manche. C'est-à-dire que on transforme cette grosse poche d'estomac en un petit tuyau, très comme une manche. C'est-à-dire qu'on va supprimer toute une partie chirurgicalement de l'estomac. Le gros avantage, c'est qu'on maintient une continuité normale du tube digestif. On fait pas de rupture de continuité comme on a avec d'autres chirurgies plus complexes, comme le bypass, qui vont entraîner une malabsorption. Là, ça va être surtout une chirurgie de réduction avec non seulement donc une sensation de faim qui va se trouver évidemment beaucoup plus facilement, mais on a montré une intervention sur les médiateurs hormonaux comme la gréline, c'est-à-dire une réduction de cette sensation parce que la paroi de l'estomac fabrique cette hormone et comme on a réduit considérablement, on a montré que effectivement tous les médiateurs et les signaux qui sont donnés au cerveau vont être améliorés.
La gréline, c'est cette hormone qui régule la satiété, c'est ça?
C'est ça, qui donne faim. C'est la leptine, en revanche, et l'adiponectine, qui sont, elles, produites par les cellules graisseuses, qui, elles, vont dire qu'il y a trop.
Voilà. Quid des médicaments de l'obésité, professeur Boris Ancel? Que propose le marché pharmaceutique en la matière? Je crois qu'il y a des médicaments qui sont en attente de mise sur le marché, comme le Wegovy, c'est ça?
Oui, alors je précise.
Expliquez-nous.
D'abord, je précise, j'ai pas lien d'intérêt avec
le laboratoire. Non, vous n'avez aucun lien d'intérêt.
C'est important de préciser quand on parle de médicaments.
Vous avez bien raison. Mais quels sont les médicaments de l'obésité actuellement sur le marché ou en attente de mise sur le marché? Expliquez-nous de façon, pédagogique, l'action de ces médicaments.
Alors aujourd'hui, l'évolution dans le domaine de la thérapeutique médicamenteuse, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les agonistes des incrétines. Incrétines, ça veut simplement dire que ce sont des hormones fabriquées par l'intestin. Et ce qui arrive actuellement, ce sont les agonistes qui simulent l'effet du GLP-1. GLP-1, c'est une hormone fabriquée par l'intestin et qui a non seulement des effets anti-diabète, au départ c'est pour ça qu'ils ont été développés et commercialisés, mais on s'est rendu compte qu'ils réduisaient aussi l'appétit, d'une part avec un effet central, mais qui n'a rien à voir avec les amphétamines, ce qu'on a eu dans le passé et qui provoquait des effets secondaires qui n'étaient pas acceptables. Donc un effet central donc, pour réduire l'appétit, un effet sur l'estomac pour réduire la vidange de l'estomac avec une sensation de plénitude gastrique. Voilà la classe thérapeutique, on va dire, la famille qui arrive. Aujourd'hui, en France, on a un médicament qui est commercialisé, mais qui n'est pas remboursé et qui peut donc être prescrit. Et je précise encore une fois, c'est pas une alternative à la prise en charge de l'obésité. Deuxième médicament qui a une autorisation européenne sur le marché, qui est un peu plus efficace et qui donc on pourrait le prescrire, mais elle n'est pas disponible en France ni encore moins remboursée. On a pu le prescrire à l'hôpital dans le cadre d'une réglementation d'accès précoce. Donc il y a des patients qui aujourd'hui en bénéficient. Ce médicament qui s'appelle le sémaglutide, c'est son nom de molécule, devrait arriver sur le marché en 2025. C'est vrai que les médecins spécialistes de l'obésité l'attendent beaucoup. Pour une petite, parenthèse, c'est le même que l'Ozempic. Sauf que
expliquez ce qu'est l'Ozempic.
Voilà, l'Ozempic,
il y a eu des détournements d'usage de l'Ozempic pour perdre du poids. C'est une insuline à destination des diabétiques.
Alors pas une insuline, c'est mais c'est insuline. Un médicament. Alors il y a confusion parce que c'est injectable. C'est pour ça que les gens l'assimilent à de l'insuline, mais c'est pas du tout la même mécanisme d'action. Et donc
l'Ozempic,
c'est le sémaglutide, le même médicament que j'ai mentionné. Sauf que
à plus faible dose.
Elle est à plus faible dose et donc son indication, son remboursement en France, en Europe, c'est le diabète. Le problème, c'est que, comme effectivement ça marche pour réduire l'appétit, beaucoup de personnes se sont procurées de l'Ozempic pour perdre du poids et les agences sanitaires ont clairement dit qu'on ne doit pas détourner ce médicament pour le traitement de l'obésité. Alors, donc, on va avoir en 2025, pour ceux qui le nécessitent, l'équivalent de l'Ozempic qui arrivera sur le marché français, probablement, je ne fais pas de prévision, mais on l'attend.
Et ça s'adresse à qui ?
Et ça s'adresse à des personnes qui sont prises en charge pour une obésité ou un surpoids avec des risques.
Un cas concret, professeur Boris Ancel, si j'ai 3 à 4 kilos en trop, je suis en surpoids, je vais être tenté peut-être de me faire prescrire ce médicament de la classe des sémaglutides.
Il
peut y avoir un détournement, comme c'est le cas en ce moment avec l'Ozempic,
cet
antidiabétique détourné de son usage chez des personnes qui ne sont pas obèses.
C'est tout le problème, donc, c'est que l'obésité, le surpoids, c'est un
problème. Vous ne pourrez pas empêcher ces détournements.
Mais on peut pas empêcher, malheureusement. Et c'est pour ça que ce que vous mentionnez tout à l'heure comme communication autour du surpoids, de l'obésité, c'est un drame. Parce que ça fait oublier qu'on est en train de parler d'une maladie chronique. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui peut améliorer votre esthétique telle que vous l'imaginez, etc. Donc, non, ces médicaments ne doivent pas être utilisés en dehors du cadre du traitement d'une maladie chronique.
À propos de surpoids, est-ce que le surpoids, c'est aussi une maladie chronique au même titre que l'obésité ?
Alors, la réponse est claire, c'est un continuum, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un certain niveau d'indice de masse corporelle, on dit qu'il y a peut-être un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. C'est le surpoids. Au-delà, on a assez probablement un excès de masse grasse et l'obésité. Et même dans l'obésité, on va avoir différents grades. Donc c'est un continuum. Et c'est pour ça que ce qui est très important, c'est d'avoir une évaluation par un médecin, le poids, le tour de taille, les prises de sang, la tension artérielle. Et c'est avec tout ça et un interrogatoire minutieux, pas policier, mais de l'histoire médicale de la personne, qu'on peut dire si cette personne est malade, est-ce qu'il faut mettre en place en évitant, et c'est la première chose qu'un médecin doit faire, docteur Chaboche, il dira comme moi, première chose, ne pas nuire. Et prescrire un régime tout de suite en disant « Oh là là, je vais maigrir », là vous nuisez à la personne, et c'est pour ça qu'il faut lutter contre tous ces pseudo nutritionnistes,
coach nutritionnel,
etc., qui n'ont pas les diplômes et qui vous promettent des choses qui font du mal à votre santé.
Merci, Dr Chabrol Chaussel, parce qu'effectivement, en tant que médecin généraliste de première ligne, je vois vraiment, mais vraiment, une recrudescence, et votre message est absolument indispensable, une recrudescence de patients qui pensent qu'il y a voilà, un bel espoir, mais parfois aussi un faux espoir, parce qu'ils ne correspondent pas à ces critères. D'autant plus, ces médicaments ne sont pas anodins, ils ont des effets indésirables, potentiels, une tolérance médicamenteuse qui n'est pas si évidente que ça. Donc on ne fait pas n'importe quoi et c'est très important de l'avoir appris.
Et quand on les arrête, il faut le préciser, quand on arrête le médicament, l'appétit revient et on reprend les kilos. Donc si on le met en place, c'est pour du long terme et donc c'est avec un médecin spécialiste de ce sujet.
Docteur Boutron-Ruault.
Oui, ce qui est important dans la prise en charge, c'est l'aspect pluridisciplinaire. Donc il y a au même titre que pour le cancer, des réunions de concertation pluridisciplinaire pour l'obésité où se parlent le chirurgien, le médecin endocrino, nutritionniste, enfin, etc., le diabéto, la diététicienne et le psychiatre, et que on va décider la meilleure combinaison de prise en charge pour le patient. Il ne faut surtout pas opposer chirurgie comme et médicaments, parce que certains médicaments vont être utilisés comme en cancéro en néo-adjuvant, c'est-à-dire avant la chirurgie, par exemple, ou lorsqu'on a un résultat imparfait ou un échec de la chirurgie, ou seul si, dans certains cas, il y a une contre-indication, par exemple, à la chirurgie, ou que la personne n'est pas du tout dans les bonnes indications.
Une question d'Emeline. Je ne suis pas obèse, mais en léger surpoids. Je n'arrive pas à perdre de poids. Pourtant, je fais du sport. J'essaie de bien manger sans trop d'excès, même si c'est difficile le week-end. Ma graisse est stockée surtout dans les jambes. Je ne sais pas comment m'en sortir.
La question est simple, c'est est-ce qu'il y a vraiment un problème de santé ou est-ce que c'est une image corporelle qui malheureusement, comme beaucoup de personnes, voilà, on se fait une idée du fait qu'on a trop de graisse. Voilà, médicalement, il faut une évaluation et il est possible qu'on dise à cette personne, ben non, en fait, il n'y a pas d'indication.
C'est difficile à entendre quand on a envie de correspondre à un canon esthétique, à un canon de beauté. Si vous avez 4 ou 5 kilos en trop, même si vous n'avez aucune complication du point de vue de la santé, c'est un peu difficile de s'entendre dire, écoutez, madame, vous n'avez pas, ou monsieur, vous n'avez pas
vous
de
avez
complications
raison,
de santé, passez votre chemin.
Non, vous avez raison, je ne le dis jamais comme ça. Mais c'est une discussion qu'il faut avoir avec les patients. Et une évaluation médicale, faut écouter le passé. Est-ce que cette personne a déjà perdu du poids? Auquel cas, ben, si elle fait un régime et qu'elle se met en stress alimentaire, j'ai envie de dire, elle va reprendre les kilos. C'est au cas par cas qu'il faut évaluer la situation avec le médecin généraliste et les médecins spécialistes si besoin.
Oui, il faut pas oublier qu'on est tous différents et que vous avez des modèles de grandes gazelles minces avec des gens minces et qui sont génétiquement comme ça.
Un peu comme Thierry Lhermitte.
Et puis, des modèles voilà, qui d'ailleurs, en général dans leur pays, sont très appréciés comme ils sont. Le problème maintenant, c'est qu'on a ces modèles dans les magazines qui vous montrent tous un morphotype type qu'il devrait falloir avoir. Cette jeune femme a probablement plutôt un morphotype un peu calipige, c'est-à-dire, et c'est bien, c'est sans doute très bon pour sa santé.
Boris Ancel, pouvez-vous nous parler d'OBCoach, une étude clinique sur le e-coaching nutritionnel public, hein, je le précise, ce n'est pas privé et c'est gratuit. Ouais. OBCoach, expliquez-nous.
Le concept est simple, hein, et à la base, hein, on l'a dit, il faut un accompagnement nutritionnel quand on est en situation d'obésité et on connaît tous ce problème des déserts médicaux, du manque d'accès à ces spécialistes. Donc on s'est posé une question scientifique, c'est est-ce qu'un accompagnement nutritionnel en ligne, comme nous on utilise déjà dans le milieu hospitalier, peut, je dirais pas remplacer les soignants, mais pallier à ce problème de soignants. Donc c'est une étude clinique, la première étude clinique qui évalue ce type d'accompagnement nutritionnel. Et ça s'adresse à toutes les personnes qui vivent en territoire français, y compris territoire d'outre-mer. On va tester cet accompagnement nutritionnel en ligne. Et c'est des personnes qui sont en situation d'obésité ou surpoids avec facteur de risque et qui n'ont pas justement du suivi nutritionnel. Et pour participer, ben c'est simple. On va sur obcoach.fr, obcoach.fr. et on peut en savoir plus sur l'étude qui est financée par un programme de recherche du ministère de la Santé, donc effectivement qui est public, 100% public.
obcoach.fr. Boris Ancet, dans un instant vous retrouvez la chronique de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale qui a visité un labo de recherche. Mais on écoute avant ça Arlo Parks qui interprète I'm Sorry. Arlo Parks interprétait I'm Sorry. Alors mon cher Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, vous vous êtes rendu dans le laboratoire de Marina Gvaskov au centre de recherche en épidémiologie, merci pour la prononciation, et santé des populations, à Villejuif dans le Val-de-Marne, et elle est à la tête d'un groupe de recherche qui étudie l'endométriose.
Oui, Marina est épidémiologiste, avec son équipe, elle a l'objectif d'améliorer la santé gynécologique et elle a participé à définir la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en 2022. Et on est le deuxième pays au monde à se mobiliser après l'Australie. Et c'est justifié car vous allez voir que c'est très invalidant et qu'on connaît encore très peu de choses sur cette pathologie. Et ce qu'on sait, d'abord, c'est une maladie gynécologique inflammatoire chronique qui se caractérise par la présence anormale de tissus semblables à l'endomètre. L'endomètre, c'est ce qui tapisse la cavité interne de l'utérus et qui se retrouve dans cette pathologie à l'extérieur de l'utérus où il forme des lésions, on va y revenir. Et environ 50% des cas sont d'origine génétique.
Et quels sont les symptômes de l'endométriose ?
Eh bien, ce sont surtout des douleurs et elles sont principalement liées au cycle menstruel. Donc, le plus souvent, les symptômes s'arrêtent avec la ménopause. Mais pas toujours. Ces douleurs peuvent être terribles. Ce sont des douleurs pelviennes pendant les règles, pendant les rapports sexuels, à l'évacuation d'urine, des selles, des douleurs abdominales chroniques. Il y a aussi des troubles digestifs et une grande fatigue. L'impact sur la vie des femmes est énorme. D'abord, c'est l'errance diagnostique qui en moyenne est de 7 ans entre le début des symptômes et le diagnostic. Et puis l'endométriose affecte tous les aspects de la vie. Études, emploi, carrière, famille, santé mentale. Et d'un autre côté, il existe aussi des cas asymptomatiques, découverts de manière fortuite, souvent à l'occasion d'un bilan de fertilité, car l'endométriose est une cause d'infertilité dans un tiers des cas.
Et quel est le diagnostic ?
Par échographie, voire par IRM. Quant au traitement, on donne des antalgiques, mais les douleurs sont souvent résistantes. Donc le plus souvent, le traitement est hormonal pour stopper les règles et réduire l'inflammation. Pour les douleurs neuropathiques, on donne des antiépileptiques, des antidépresseurs et parfois des dérivés morphiniques. Et puis dans certains cas, on retire les lésions par chirurgie.
Et où se situent ces lésions ?
Eh bien, elles peuvent se retrouver partout dans le corps, dans n'importe quel tissu ou organe, dans la région pelvienne, mais aussi ailleurs, par exemple sur le tube digestif. Et elles se présentent sous différentes formes qui peuvent coexister chez la même patiente. Ça va de petites taches colorées superficielles jusqu'à des formes profondes, des nodules au cœur des tissus. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'étendue des lésions et les symptômes. Il y a des patientes qui s'ouvrent le martyre et qui ont juste de petites taches, à peine visibles, et d'autres qui ont des formes très profondes avec des invasions d'organes et qui n'ont pas de symptômes. C'est donc une maladie qui est hétérogène et très énigmatique.
Et combien de femmes sont touchées par l'endométriose ?
Alors, on estime que ce sont 10% des femmes en âge de procréer, mais c'est très incertain car les études ne sont pas concordantes. Et c'est sûrement sous-estimé du fait de formes sans symptômes. Et c'est justement une partie de ce que tente découvrir l'équipe de Marina Kvasov.
En quoi consistent ces recherches ?
C'est de l'épidémiologie, c'est-à-dire qu'elle étudie la répartition de la maladie et ses déterminants au niveau des populations. En bref, ça permet d'établir la fréquence, la répartition, les facteurs de risque, etc. C'est donc une approche qui permet de produire des connaissances très utiles à la prévention, qui est un des grands objectifs de l'équipe. Et c'est vraiment important car, à part ce dont je viens de vous parler, on connaît quasiment rien de l'endométriose. On ne sait pas si c'est une maladie qui évolue avec l'âge, si la maladie est plus fréquente aujourd'hui qu'avant, et je ne parle même pas des mécanismes. En 2018, Marina a contribué à une analyse des études déjà publiées sur les facteurs de risque. Conclusion, les seules données cohérentes montrent que l'endométriose est associée à un faible poids de naissance, à un âge précoce des premières règles, à des cycles menstruels courts et à un faible indice de masse corporelle.
On a donc vraiment besoin de la recherche pour pouvoir prévenir et soigner cette maladie.
Exactement. Et pour recueillir les données qui manquent pour comprendre la maladie, l'équipe de Marina Kvasov coordonne une grande étude nationale qui s'appuie sur des cohortes en population, c'est-à-dire des groupes de personnes volontaires qui participent à une recherche. Ces cohortes, qui existent déjà depuis longtemps, peuvent réunir des centaines de milliers de personnes et être suivies durant des dizaines d'années. Il y a notamment de grandes cohortes mère-enfant, des cohortes chez l'adulte et une cohorte transgénérationnelle avec des femmes suivies, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants, etc.
Comment se déroulent ces études ?
Eh bien, les personnes répondent à des questionnaires sur l'endométriose, son diagnostic, ses symptômes, etc. Et des liens seront établis entre les données cliniques et les données sur la pollution, les expositions professionnelles, la nutrition, etc. Et ce projet est unique en Europe. Ces études vont enfin permettre d'établir la fréquence de la maladie, les facteurs de risque environnementaux, génétiques, etc. Et la Fondation pour la recherche médicale finance plusieurs études dans ce laboratoire. Une sur les liens entre l'endométriose et les polluants organiques persistants, les fameux POP, qu'on trouve partout. Elle est menée conjointement par German Cano Sancho et Marino Kvasov. Le projet aussi de post-doctorat d'Hélène Amazouz, qui cherche à comprendre le lien entre le risque d'endométriose et les expositions environnementales in utero et après la naissance, c'est-à-dire la nutrition, l'exposition aux pesticides domestiques, en croisant les informations avec les données de pollution de l'air. Et enfin, le projet de thèse du docteur Najib Mokraoui, qui vient de Montréal, et étudie les maladies associées à l'endométriose et les liens avec les symptômes, la douleur et la qualité de vie. Et pour cela, il travaille avec une cohorte particulière qui s'appelle COMPAR, pour Communauté de Patients pour la Recherche, et qui est composée uniquement de personnes avec une maladie chronique.
Et comment ça marche ?
C'est une plateforme de recherche participative en ligne. Alors il suffit d'aller sur le site et de s'inscrire pour participer en répondant à des questions et en transmettant des informations sur sa maladie. C'est évidemment très sécurisé. Il y a autour de 60 000 patients aujourd'hui avec différentes maladies, dont l'endométriose. Toutes les femmes concernées peuvent s'inscrire, ça fait avancer la recherche. Le site, c'est compare.aphp.fr. L'équipe a commencé à avoir des résultats, par exemple sur l'errance diagnostique, le ressenti des femmes, l'évolution des douleurs au cours du temps, etc. Donc, les choses progressent.
compare.aphp.fr. Merci beaucoup Thierry de mettre en lumière tous ces chercheurs dans les laboratoires. Comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM ?
Eh bien, sur Internet, sur le site frm.org, ou si vous voulez donner 10 euros qui seront prélevés sur votre facture téléphonique en envoyant le message don, D-O-N, au 92-300.
92-300 et vous envoyez le mot don, D-O-N, ou vous pouvez donner également sur frm.org. Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain Thierry Lhermitte. Merci beaucoup docteur Marie-Christine Boutran-Ruot et merci professeur Boris Ancel. Demain, comment expliquer nos ruminations avec le mensuel Cerveau et Psycho.